RCF.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission À vos couleurs, les miennes, celles du quotidien, celles aujourd'hui de Daniel Bernard avec qui nous allons faire frétiller nos papilles pour évoquer la couleur du vin. Nous avons évoqué avec vous, Daniel Bernard, la route de l'or bleu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier et poète, mais je n'ai pas oublié que vous avez été sacré meilleur jeune sommelier de France. L'occasion est trop belle, j'avais envie depuis longtemps d'aborder la couleur, les couleurs du vin. Mais avant d'entrer dans le sujet, racontez-nous ce que vous avez fait alors de vos talents de sommelier.
Oh, je suis issu de l'école hôtelière, j'ai fait mes études à l'école hôtelière de Paris. Et donc, tout naturellement, j'ai été séduit par le vin et par toute la poésie du vin, par la couleur du vin. Et tout naturellement, j'ai surtout étudié les Bourgognes, les Bordeaux, les Champagnes et tous les vins de France qui font partie de notre patrimoine.
Bon, on va voir ça. Par ailleurs, Daniel, vous donnez des conférences. Nous allons donc aujourd'hui profiter de vos talents de pédagogue et de vos connaissances pour évoquer les couleurs du vin. Parce que la question vient tout de suite à l'esprit. Elle est simple. D'où vient la couleur du vin? Pourquoi est-ce qu'il est rouge, blanc ou rosé? Quand on passe devant les vignobles, on voit des grappes noires, blanches, rouges. Mais est-ce la couleur des grains qui donne la couleur du vin?
Eh bien, le grain du raisin, la grappe, est donc constitué de la rafle. Le grain du raisin est constitué d'une pellicule. Sur cette pellicule, il y a donc la pruine qui contient les levures, les ferments naturels. Puis ensuite, on a la chair, c'est-à-dire la pulpe. Et pour finir, les pépins. Les pépins, dans chaque raisin, il y en a un ou deux. Voilà. Et c'est, en gros, c'est ce qui va donner donc le grain de raisin. Et quand on presse, on a donc ce qu'on appelle le vin de goutte. Et ensuite, quand on presse vraiment, c'est le vin de presse. Et si on fait fermenter la peau avec la pulpe, c'est-à-dire le mou, eh bien, on obtient un vin plus ou moins coloré. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de l'émission.
Donc, on rectifie déjà, c'est la peau, en fait, qui donne la couleur. Alors, justement, parlons du cépage teinturier. Sa pulpe est colorée. C'est donc une exception. Et pourquoi ce nom teinturier qui interpelle?
Eh bien, si on reprend le grain du raisin, on a une première catégorie de raisins qui sont peau, pellicule, c'est-à-dire blanche, et pulpe blanche. On va avoir un vin blanc. Ensuite, on a le raisin rouge avec une pellicule noire, mais la pulpe est blanche, et donc si on ne fait pas fermenter la peau avec le mou, avec la pulpe, eh bien on obtiendra un vin à ce moment-là blanc. Et quand on a un raisin qui a une peau noire, ou rouge, et qui a la pulpe noire, ça c'est le cépage teinturier.
Mais pourquoi le nom teinturier?
Parce qu'on l'a appelé comme ça, parce qu'il est teint, on dirait qu'il est comme une teinture, c'est-à-dire qu'il donne un vin très foncé naturellement, et sans fermentation aucune. C'est ce qui a beaucoup interrogé les vignerons même de l'Antiquité. Aujourd'hui, ce vin existe peu en France, on l'en trouve dans le Midi, on le voit dans la Mancha du côté de l'Espagne, et en Californie, il y en a pas mal.
Le sujet de notre émission est la couleur du vin. Alors, en bon candide, j'ai envie tout de suite de vous poser deux questions très simples qui vont sans doute vous faire sourire, Daniel. Peut-on, les yeux fermés, reconnaître la couleur d'un vin?
Ah, c'est la grande question. Globalement, je vous dirais non. Non, parce que ça dépend de la température. Mmh. Si vous prenez un vin rouge léger et que vous le buviez ou le dégustiez très frais, vous aurez beaucoup de difficultés à dire que c'est un rouge. Voilà. Et si vous prenez le blanc, c'est un peu différent parce qu'il a, on le verra tout à l'heure à la dégustation ou un autre jour sur une autre émission, les arômes à ce moment-là rentrent plus en compte que deviner la couleur. Deviner la couleur, c'est quand même c'est pas le but hein, du vin, hein. C'est-à-dire quand on le boit, ce qui compte c'est de l'admirer et de le déguster.
Bien. Peut-on reconnaître alors l'origine du vin à sa couleur?
Ah ben oui, c'est-à-dire qu'on peut très bien, c'est un des éléments qui font que dans la dégustation, on arrive à déterminer l'encépage, le cépage, on peut déterminer ceux qui sont des sommeliers, les maîtres de chai, savent déterminer à la couleur du par exemple, la couleur rubis va scier. Par exemple, sur un Beaujolais, on va avoir un aspect plutôt violacé. Sur un vin plus vieux, Bourgogne, on va avoir un aspect plutôt groseille. Et puis, on a sur des vins groseilles, des vins fruits rouges, on a vraiment toute cette gamme de couleurs qui va déterminer un petit peu les provenances. Ce qui va déterminer aussi la nature du vin, alors c'est le climat, mais aussi le sol, parce que ça c'est très très important. La vigne demande un terrain plutôt aéré, caillouteux, pas trop riche, et ça c'est quelque chose de tout à fait essentiel. On n'obtiendra pas le même vin suivant la différence de sol.
Voilà, et voilà pourquoi nous ici, on a un petit peu de vin avec nos cailloux en Charente. Si je comprends bien, ce sont d'autres facteurs comme la région peut-être, ou les méthodes de production, ou bien le moment où l'on cueille le raisin, le temps de maturation, qui peuvent expliquer la couleur d'un vin. Alors je vous propose de faire un grand tour de France et ce sera l'occasion, au fur et à mesure, de revenir sur chacun de ces paramètres. Commençons donc notre tour de France avec les grands vins institutionnels qui existent dans les trois couleurs.
Alors bien sûr, faire un tour de France des vins, c'est tout à fait impossible, mais on va survoler un petit peu comme une vue d'avion. Donc on a deux grandes régions, les institutionnelles qui sont arbitrairement, c'est quelque chose que l'on peut imaginer. On a Bordeaux, Bourgogne, Champagne. En ce qui concerne les Bordeaux, il y a les grandes régions qui sont les Graves, les Pomerol, Saint-Émilion, et puis vers l'Atlantique, entre le Feuvre et l'Atlantique, on a les Médocs.
Parlons pour commencer des vins de Bordeaux. Le Médoc, par exemple, vous le dites plus féminin. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
C'est un vin, le Médoc est un vin que je considère comme rond, c'est-à-dire un vin plutôt féminin, dans le sens où il n'y a pas d'aspérité, c'est-à-dire on n'a pas d'astringence. L'astringence, c'est un petit peu, vous savez, cette espèce d'âpreté que l'on
un
a...
Un peu d'agressivité, vous voulez dire ? Quelque chose qui...
Ben, pas exactement, c'est comme quand vous buvez un thé trop infusé. Mm-hmm. On ne peut pas dire que c'est agressif, mais on va dire que c'est âpre. C'est ça l'astringence. Voilà. La particularité, bien sûr, beaucoup plus modulée du Bordeaux, eh bien, on a plus ou moins d'astringence. C'est la caractéristique de l'ensemble des Bordeaux. Par contre, quand on a dans les Médocs, on a une rondeur qui fait que l'aspect alcool, l'aspect sucre, l'aspect astringence, l'aspect force, tout ça, c'est d'une rondeur, tout se marie très très bien. C'est un petit peu ce qui me permet de dire que ce vin est féminin.
C'est gentil de dire que les femmes sont douces.
Pour terminer, pour le Bordeaux, s'il y a du féminin, les autres sont masculins. C'est-à-dire, on a les Graves qui sont masculins. On a plutôt des Saint-Émilion. Alors, pourquoi ils sont plus masculins ? Je dirais parce que ils sont plus puissants. C'est cette puissance qui va faire que de ce vin quelque chose de masculin. Et on n'a plus cette rondeur, on a une astringence qui va être un peu plus forte. Voilà, ça c'est la caractéristique. Après, le fruit qui va perler, et on a des différences avec le Pomerol. Là, c'est dans les vins vraiment masculins, on a les Graves, assurément, on a les Saint-Émilion, et puis on a les Pomerol qui sont pleins de délicatesse. Voilà.
Alors les Bourgognes maintenant, on pense habituellement aux Bourgognes rouges et aux Bourgognes blancs. Est-ce qu'on fait des rosés en Bourgogne ?
Alors en Bourgogne, on a des rouges, on a des blancs, on a des rosés. Vous voulez parler des rosés ? Mmh. Les rosés, ça représente à peu près 1% de la production. C'est tout à fait... c'est peu. Mais pour faire du rosé, eh bien, les vins, dans les rosés, les vins sont... c'est toujours le même principe, mais ça, je crois, on le verra tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
On le verra tout à l'heure. C'est une fermentation plus ou moins contrôlée, plus ou moins longue de la pellicule avec le mou. Alors, en ce qui concerne de la Bourgogne, dans les grandes régions de Bourgogne, on a surtout la Côte des Nuits et la Côte de Beaune. Voilà, la région des Côtes des Nuits, c'est Fixin-Brochon, Chambol-Musigny, Gevrey-Chambertin, la Doye-Sérigny, voilà. Et à partir de la Doye-Sérigny à l'Haute-Corton, tout ça, c'est la Côte des Nuits, c'est la Côte des Beaunes. Voilà. Donc en premier, les Côtes des Nuits sont plus charpentées, ce sont les Chambertins, c'est des vins qui sont plus. Qui ont une histoire. Par exemple, au temps de Louis XIV, qui raffolait de ce vin des Côtes de Nuit, eh bien, il se faisait expédier à Versailles et se fait servir dans des vins carafés chaque nuit, chaque soir, par son valet, Bontemps, qui lui décantait à ce moment-là une bouteille de chaque soir, bouteille de Côtes de Nuit, et qui le mettait sur un petit guéridon roulant qui l'amenait près du lit. Et ce qui faisait que tout le monde parlait de la table de cette Côte de Nuit que le roi dégustait chaque soir. Et ce qui est drôle, c'est que dans notre langage, la table de nuit, en fait, c'est une table de nuit comme une table de chevet. Or, si on devait respecter l'histoire, table de nuit devrait s'écrire avec un S, puisque c'est la table du vin de nuit de Louis XIV.
On va voir notre table de nuit différemment. En champagne, est-ce qu'on peut faire du champagne avec un raisin noir ?
Alors bien sûr, il y a beaucoup de raisins noirs. Vous savez, il y a deux sortes. Le champagne blanc, c'est le chardonnay. Le raisin noir, c'est le pinot noir. Mais si on ne fait pas fermenter la peau, comme toujours, avec le moût qui est blanc, on va obtenir un champagne blanc avec un raisin noir, bien entendu.
Alors comment obtient-on la couleur rose du champagne ?
Alors la couleur rose du champagne est une exception en France. C'est le seul qui soit autorisé, parce que à mélanger, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'assemblage entre un champagne blanc et un champagne rouge. Un champagne rouge, tranquille, c'est-à-dire c'est ces deux assemblages qui font que le vin est rosé. Partout en France, on n'a pas le droit, pour obtenir un vin rosé, on doit faire fermenter la peau d'un raisin rouge avec la pulpe qui est blanche, et on obtient, au bout d'un certain temps, et ça on le verra tout à l'heure.
Alors faisons une halte musicale, Daniel, dans notre tour de France. Qu'est-ce que vous souhaitez entendre ?
Eh bien, je pense tout de suite, quand je vois les vallons de la Bourgogne ou de Champagne, ça me fait penser à la petite montagne, bien sûr, de Jean Ferrat. La vigne, elle court jusque dans la forêt, où le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette, s'il ne vous tournait pas la tête.
Il quitte un âne pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. En voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
Bienvenue aux éditeurs qui nous rejoignent. Nous sommes chez l'auteur Daniel Bernard, avec qui nous nous promenons dans les vignes pour goûter les couleurs du vin. Alors, à côté des grands vins institutionnels dont nous venons d'évoquer les couleurs, il en existe d'autres. Parlons des bons vins en France. Évoquons leurs couleurs. Le Beaujolais, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que le Beaujolais serait carmin et le Bordeaux ocre rouge?
Eh bien, c'est pas tout à fait comme ça. Je pense que c'est le rubis. C'est une couleur plutôt violacée pour le Beaujolais. Et on a des teintes après qui vont se rapprocher. Alors, ce qui varie suivant le Bordeaux ou le Bourgogne, mais également suivant le temps passé dans la bouteille, qui fait que plus le vin va être... il est rouge vif et un peu violacé quand il est jeune, quand il est rouge cerise plutôt quand un vin est en pleine évolution, il est crescendo, on va dire, hein, qu'il est en pleine montée. Il est rouge avec quelques nuances orangées quand c'est un vin de garde qui est à son apogée et qui est à ce moment-là qui va être ce qu'on appelle stable. Et puis ensuite, quand un vin devient rouge brun couleur brique, eh bien, il est temps de le boire parce qu'il va commencer à être ce qu'on appelle décrescendo. Voilà.
Très bien. Passons dans les Côtes de Provence. Comment obtient-on un rosé plus clair?
Alors, la Provence, c'est particulier. D'abord, c'est une appellation qui est jeune, quelques dizaines d'années tout au plus en appellation contrôlée. C'est un vin qui est à la mode, c'est un très très grand vignoble. Et on obtient cette couleur à peine rosée par une technique qui est assez nouvelle, qui est ce qu'on appelle le pressurage direct. C'est-à-dire qu'on prend le raisin qui arrive directement au chai, après les vendanges, au moment des vendanges. On va le refroidir et on va à ce moment-là séparer les grappes, la rafle, on va les rafler. On va prendre le grain du raisin et on va le pressurer direct. Et c'est ce pressurage qui va donner à ce moment-là ce jus qui est à peine coloré, presque que de l'eau des fois, d'une couleur formidable. Et c'est ça qui va donner justement cette couleur inénarrable, cette couleur formidable qui est le rosé de Provence.
Alors passons en Côte-du-Rhône. À propos du Tavel, on évoque la couleur œil de perdrix. Joli nom, qu'entend-on par là?
Alors là, on est toujours dans les rosés, hein. Donc le Tavel est un rosé. La couleur de l'œil de perdrix, eh bien, les anciens disant, c'est l'œil de la perdrix à l'agonie, c'est-à-dire cette couleur qui vire un peu au rouge, c'est-à-dire qui n'est pas tout à fait dans les rosés, qui n'est pas tout à fait dans les rouges, qui est juste au milieu un peu, voilà, qui est un petit peu juste avant la porte des gris, des vins gris. Sur les côtes du Rhône, c'est essentiellement, là encore, des vins rouges, hein, et quelques blancs, château grillé, blanc et tout. Et dans les côtes du Rhône, on a des teints l'Hermitage, on a des Hermitages, on a des côtes rôties, des côtes brunes, des châteaux grillés, tout ça, qui sont tout à fait formidables, hein, donc on ne peut pas les laisser sous silence.
En Alsace, les blancs d'Alsace sont plus ou moins clairs. Comment l'explique-t-on?
Alors, on l'explique d'abord parce que souvent, il y a une maturation qui se fait plus difficilement de par peut-être l'ensoleillement. Et puis ensuite, le cépage. C'est-à-dire, c'est la seule région où il y a le vin porte le nom du cépage, une des rares régions. Le Riesling, cépage Riesling qui donne le Riesling, Sylvaner qui donne le Sylvaner, le Gewürztraminer, etc. Et comme on a à ce moment-là des cépages aussi qui sont avec des vins charpentés, aux arômes puissants, eh bien on va avoir des couleurs qui sont plus paille, qui vont être plus jaunes. On arrive à avoir, là encore dans la gamme des blancs, quand on a un jaune qui est très très pâle, presque transparent, comme le muscadet, que l'on verra tout à l'heure, eh bien, on a un vin très très jeune. Quand on a des jaunes avec des reflets verts, c'est un vin qui n'a pas tout à fait encore évolué. Et puis quand on a un jaune paille, il est à maturité, c'est un petit peu le cas de l'Alsace. Et quand on a des jaunes qui sont ensuite un petit peu cuivrés, sont des vins secs qui sont bien évolués, mais quand après ils deviennent plus bruns, ce sont des vins qui sont quand même oxydés. Voilà. Oui. C'est ça la gamme, en gros, des blancs.
Mmh. Alors, les vins de Loire, justement, est-ce que le muscadet est le plus pâle des blancs? Alors, pourquoi?
Oui, alors c'est le plus pâle des blancs, le muscadet. On a l'habitude de dire que la couleur du muscadet, c'est vert or pâle. Voilà. Mais souvent, on a le vert, on a l'or et on a pâle dans la gamme des blancs. Mais souvent, le muscadet, on le prend pour ces trois. Alors, ce qui est juste une anecdote, pas confondre avec le Gros Plan, qui est aussi un grand vin de la région nantaise, mais le muscadet, c'est le cépage muscadet. Mais ce qui est à l'origine du cépage muscadet, c'est les guerres à ce moment-là entre les régions. Le duc de Bourgogne qui faisait beaucoup de guerres avec duc d'Anjou, etc. Donc on avait dans la Loire, les paysans partaient avec des gabarres et certains sont partis avec un cépage qu'on appelait à ce moment-là, autrefois, il y a quelques siècles, le melon de Bourgogne. Et le melon de Bourgogne, ils l'ont transplanté dans le pays nantais, ce qui ça se sait peu, et c'est ce qui va donner le cépage muscadet.
Ah ouais. Alors, toujours dans les vins de Loire, le Bourgogne, est-ce que vous le diriez féminin, celui-là?
Non, c'est un jeune freluqué, c'est un vin qui est comme le Beaujolais, qui est gouléant. C'est par nature, les vins de Loire sont des vins gouléants, qui ont été donnés par Henri IV, et le goût, justement, c'est Henri IV et ensuite François Ier. Ça a été... Non, ces grandes régions de Pays de Loire, ce sont des vins qui sont... alors juste, il y a un rosé qui est du côté du Vendômois, où là on a non pas l'œil de Perdry, mais l'œil de Gardon. Et là aussi c'est très symptomatique, on l'obtient justement par pressurage direct, et on a un rosé qui est à peine teinté et qui est justement dans cette gamme qui va aller dans ces roses un peu pâles. Parce qu'à côté, justement, dans l'Anjou, avec l'ancien Pinot, alors Pinot, P-I-N-E-A-U des Charentes, que l'on tient avec le Mistel, mais autrefois, il y avait un cépage qui s'appelait Pinot, N-E-A-U des Charentes, qui maintenant s'appelle le Chenin blanc. Et donc, ce Chenin rouge, ou le Chenin. Le Chenin, c'est un cépage qui va donner dans les vins de la Loire, qui donne des vins tout à fait extraordinaires. Juste pour terminer sur les vins d'Anjou, les vins d'Anjou ont une couleur tout à fait particulière, c'est le rose bonbon, le rose bonbon anglais.
Alors justement, les vins cuits, comment est-ce qu'on obtient belle couleur des vins cuits?
Alors là c'est pareil, c'est la catégorie, ce qu'on appelle, en technique on appelle les mistels, c'est-à-dire que l'on prend un moût, on va le colorer plus ou moins en faisant fermenter le mou blanc avec un cépage à ce moment-là, avec une pellicule, c'est l'uni, c'est le cépage du cognac. Et puis on a des cépages à ce moment-là qui sont plus rouges, que l'on va prendre comme des sauvignons, des cabernets, et on va à ce moment-là mélanger, on va faire fermenter la peau avec le mou. Donc on va obtenir un mou légèrement rosé, et on prend du cognac, qui à ce moment-là est très pur, et on va additionner le cognac à raison du quart à peu près dans la bouteille. On va obtenir, pour un cognac qui fait dans les 80 degrés, quelque chose, 78 degrés, on va obtenir au quart, on va obtenir 18. C'est ça, 18 degrés, c'est le Pinot des Charentes, qui fait 18 degrés, qui peut être blanc, puisque si le moût est blanc, et si on a mis du cognac dans un moût légèrement pour arrêter la fermentation, on stabilise tout ça et on obtient un pinot.
Oui, on comprend. Alors, folle noire, folle blanche, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il y a une relation avec la couleur finale du vin ?
Il n'y a pas de relation avec la couleur, si ce n'est que la folle blanche et la folle noire étaient des cépages. On n'utilise plus la folle noire, mais la folle blanche, c'est ce qui a donné le chenin, c'est ce qui va donner le pinot, et c'est ça, en fait. Voilà. Donc ça, c'est des appellations de cépages, et ça ne joue pas sur la couleur, en dehors du fait que la folle blanche est une couleur blanche. Voilà.
Très bien. Écoutez, Daniel Bernard, merci pour cette belle promenade. Oui, on comprend mieux les couleurs du vin, mais beaucoup d'interrogations me viennent encore. Donc, nous nous retrouverons pour une deuxième émission. Au revoir.
Oui, au revoir. Et si vous voulez avoir mes actualités, c'est sur Facebook.
Puis allez surtout visiter le site de Daniel Bernard, qui est très, très, très beau. Au revoir à tous et d'ici là, prenez bien soin de vos couleurs.